titre du journal de la mi-journée.
La nouvelle extension du gymnase de Burier a été inaugurée ce matin. La construction comprend 9 classes supplémentaires, ce qui fait de Burier le plus grand gymnase du canton avec son lot d'inquiétudes. Puis la constituante valaisanne entre véritablement demain dans le vif du sujet. Comprenez la lecture de détails des articles de 3 des 10 commissions thématiques et les discussions promettent d'être animées. On en parle tout à l'heure avec Yves Terrani. Après une très longue semaine remplie de rebondissements, l'heure est à la préparation du deuxième tour des élections à la municipalité à Blenay-Saint-Légier. Un deuxième tour où il faudra regagner la confiance des électeurs. Et puis l'année prochaine sera bien chargée pour les citoyens suisses. La population sera en effet amenée à se prononcer sur plusieurs objets importants comme la publicité du tabac ou encore l'exportation du matériel de guerre. Et enfin en football, les week-ends se suivent et se ressemblent pour le FC Sion au stade du Letzigrund à Zurich. Et sur la scène régionale, le derby de première ligue entre Vevey et Monté a souri samedi aux Vaudois.
Un ciel gris souris, bulletin météo complet en fin de journal. Un journal qui est présenté par Quentin Frère. Quentin, bonjour.
Et bonjour. Le gymnase de Burier comptera jusqu'à 2100 élèves dans les prochaines années. Cela en fera de loin le plus grand gymnase du canton. Une annexe a été inaugurée ce matin. Celle-ci pourra accueillir 200 élèves supplémentaires cette année. Au total, 1792 gymnasiens se masseront cette année à la Latour de Paix. C'est bien plus que les 1200 recommandés pour de bonnes conditions d'enseignement. Mais en attendant de nouveaux établissements sur la côte ou encore à Aigle, il faut répondre à l'augmentation démographique. C'est ce qu'explique Cécile Amarel, la conseillère d'État chargée du département de la formation, de la jeunesse et de la culture.
Oui, aujourd'hui, vous le savez, le canton de Vaud est extrêmement sous tension par rapport à l'augmentation démographique, mais aussi par rapport à l'attractivité en fait, des études gymnasiales qui ne se dément pas année après année. Et donc aujourd'hui, on avait besoin de construire plus de classes. Donc on a construit le gymnase de Bussigny, l'extension du gymnase intercantonal de Labroix et l'extension du gymnase de Burier. Cette rentrée, elle est vraiment marquée par ces trois augmentations de classes. Et c'est vrai que l'extension du gymnase de Burier était absolument nécessaire pour qu'on puisse garantir un nombre d'effectifs pas trop grand pour par rapport aux normes légales pour les classes des gymnases vaudois.
Donc nécessité d'avoir entre guillemets ce gymnase monstre qui inquiète aussi un peu.
Alors c'est pas un gymnase monstre, hein. C'est un gymnase qui pour l'instant a moins de 2000 gymnasiens, mais c'est vrai que c'est un gymnase qui est clairement plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir dans les gymnases vaudois. Il y a entre 1200 1500 gymnasiens en général dans les gymnases vaudois. Aujourd'hui on dépasse cette norme par rapport au gymnase de Burier, mais c'est quelque chose de temporaire parce que évidemment quand le gymnase d'Aigle ouvrira, eh bien il y aura une détente par rapport au gymnase de Burier, et puis on reviendra à une taille idéale au gymnase de Burier à partir du moment où le gymnase d'Aigle s'ouvrira.
Bon, vous me voyez venir hein, par rapport aux inquiétudes des syndicats. On voit donc ces murs qui arrivent à suivre, à juguler cette augmentation démographique. Est-ce que l'embauchement, l'engagement du personnel va pouvoir suivre les inquiétudes principales des syndicats qui vont être exprimées aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. L'engagement du personnel, il suit. Nous avons vraiment rempli tous les engagements qui étaient les nôtres. Évidemment que nous avons fait les choses en deux phases. D'abord, il y a 200 élèves de plus aujourd'hui. Et puis à la rentrée d'août 2022, il y aura 200 élèves de plus. Donc ça veut dire qu'on arrivera à 2100 élèves en août 2022. Et c'est vrai qu'on accompagne justement cette augmentation par rapport au nombre d'infirmières scolaires, au nombre d'aumôniers, au nombre évidemment de tout ce qui est autour en fait de la vie des gymnasiens. Ça c'est sûr que le Conseil d'État s'y était engagé et disons rempli ses engagements.
Redites-nous un petit peu par quel processus la construction du gymnase d'Échallens et celui d'Aigle va détendre un petit peu la situation ici sur Burier.
Le gymnase d'Aigle est, disons, prévu pour 2026. Donc, du moment, si tout va bien, si l'augmentation du gymnase d'Aigle, disons, peut être effective par rapport à cette planification, eh bien, évidemment qu'il y aura une détente, qu'il y aura un certain nombre de nouveaux élèves, de nouveaux gymnasiens qui iront plutôt à Aigle qu'à Burier.
Et notons que ces revendications d'engager du personnel comme un ou une psychologue ou un ou une infirmière supplémentaire émanent des syndicats d'enseignants. Ces derniers lanceront d'ailleurs à 12h45 une contre-inauguration de l'extension de Burier.
Et on reste à la tour de paix avec le projet de rénovation du château qui continue d'être sous le feu des critiques.
Et oui, un groupe référendaire composé de conseillers communaux et de Tarané Aminon, député au Parlement cantonal, a vu le jour aujourd'hui. Les détracteurs s'attaquent notamment à la création d'un restaurant dans l'actuel donjon en ruine. D'autres points inquiètent les opposants, comme l'avenir du musée suisse du jeu et l'impact de ces travaux sur les finances de la commune. Pour rappel, ils coûteront 10 millions de francs à la collectivité, dont 3 350 000 pour le nouveau restaurant. La population boëlande est invitée à se prononcer sur le projet le 28 novembre 2021.
La constituante valaisanne attaque demain la lecture des articles de 3 des 10 commissions thématiques.
Les entrées en matière ont été votées le 7 septembre dernier. Il s'agit maintenant de procéder à l'examen complet des différents articles, rapports de minorité et amendements compris, des commissions thématiques numéro 1, 2 et 10. Et Yves Terrani, vous êtes venu nous dire que les discussions promettent d'être longues et animées.
Oui, en effet, cela va être le cas d'entrée de jeu avec la commission thématique numéro 1, celle où il est question du préambule de la Constitution, des dispositions générales, de la cohésion sociale, des rapports Église-État ou encore des dispositions finales.
Donc déjà rien que le préambule, ça pose un problème.
Le monde politique valaisan, et pas que lui d'ailleurs, a déjà beaucoup disserté autour de cette question. Doit-on conserver au nom de Dieu Tout-Puissant, nous, peuple du Valais, libre et souverain, etc. ou remplacer cette formule actuelle par nous, peuple du Valais, libre et souverain, croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d'autres sources, etc. Rien que là, ça va continuer à batailler ferme.
Et entre autres, hein, les rapports de minorité et amendements, il va y avoir de quoi faire.
Et ce sera le cas pour tout ce qui ressort de la commission thématique numéro 1, même si, et c'est à souligner, les entrées en matière des commissions 1, 2 et 10 ont été acceptées tacitement, donc sans que les trois projets nécessitent de vote, nous a rappelé ce matin le secrétaire général de la constituante, Florian Robir. Il reste que le préambule, mais aussi le rapport Église-État, va occuper les constituants probablement toute la journée de demain. On sait qu'il s'agit de questions sur lesquelles chacun ou presque voudra s'exprimer. À noter encore qu'il y a un rapport de minorité aussi concernant l'hymne valaisan. Il s'agissait de supprimer l'article le concernant de la Constitution. Il reste que, au nom, je cite, du ciment qui unit les Valaisans et de la notion de musique qui rassemble, il y a lieu, selon ce rapport de minorité, de l'y maintenir, estime des constituants PDC, UDC et PLR.
Mais tout n'est pas noir. Hein. Les choses pourraient être plus faciles en revanche avec les commissions thématiques 2 et 10.
Toujours difficile à extrapoler. Le même Florian Rebir en convient d'ailleurs. Précisons ici que la commission 2 traite des droits fondamentaux et sociaux de la société civile. La 10 concerne les communes et l'organisation territoriale. Il y a dans les deux cas des rapports de minorité et notamment dans la commission numéro 2 autour des conditions minimales d'existence et du financement des partis politiques. Et bien évidemment, il y a aussi des amendements. Mais sans doute que les sujets sont moins sensibles que ceux qui touchent profondément à l'identité valaisanne, comme c'est le cas autour de la commission numéro 1. Quoi qu'il en soit, et même s'il ne nous est pas possible de tout résumer ici en quelques minutes, les constituants ont du pain sur la planche lors de cette session qui aura lieu demain et jeudi. Pas sûr d'ailleurs qu'ils parviennent à écluser en deux jours le copieux menu qu'il leur est proposé.
Eh bien, merci beaucoup Yves Terrani, et puis on compte sur vous pour nous tenir au courant de l'avancée de ces discussions. Très bien.
La future commune fusionnée de Blonay-Saint-Légier vient de connaître une semaine intense.
Et oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout a commencé le week-end des élections communales, il y a une semaine. Un nombre important de bulletins blancs avait été recueilli, tant que la municipalité que pour le conseil communal. Le lendemain, nous apprenions qu'un problème s'était passé lors du report des voix, des rebondissements qui ont mené à un recomptage des bulletins samedi. Tout ceci n'a toutefois pas trop énervé l'actuel syndic PLR de Saint-Légier, Alain Beauvais, engagé au deuxième tour pour la municipalité.
Non, ça ne m'agace pas, bien sûr, c'est un peu une déception, parce qu'on se dit, tiens, on est quand même sous les radars des différentes régions de notre canton, par rapport au fait qu'on a cette fusion et puis l'élection des nouvelles autorités. Ça, je dirais que ça m'attriste un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on puisse, comment dire, rétablir les autorités dans de bonnes conditions et dans une campagne que j'espère puisse retrouver un petit peu de sérénité.
Et une sérénité que les candidats espèrent atteindre avant le 17 octobre, date du second tour pour la municipalité. D'ici là, il faudra convaincre la population de voter en nombre. Pas une mince affaire, selon Charles Morard, candidat du groupe L'Entente.
Le vainqueur du premier tour, c'est l'abstention, malheureusement, plus de 50% d'abstention. Donc c'est vrai que là, en deux semaines, on ne fait pas d'illusions. On va essayer de réintéresser des jeunes, on va essayer d'être présent sur les réseaux sociaux, mais on ne fait pas d'illusions en deux semaines qu'on aura un taux d'abstention moins élevé. Et puis on est bien au courant qu'avec l'absence de votation fédérale, moi je mise sur 32 à 37% de participation.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Notons encore que l'épilogue du recomptage de samedi n'est pas encore connu, puisque ni la commune ni l'État n'ont encore communiqué à ce sujet.
Un Saint-Cours qui aide les personnes souffrant d'illettrisme à préparer l'examen théorique du permis de conduire.
Et oui, c'est ce que propose l'association Lire et Écrire Valais. À l'ère du numérique, difficile en effet pour ces personnes de pouvoir se préparer de la meilleure des manières à un examen qui utilise un vocabulaire très spécifique. Selon la directrice de Lire et Écrire Valais, Valérie Marty-Zenrufinen, ce cours répond à une demande très forte parmi les bénéficiaires de l'association.
20% de nos apprenants entrent chez nous en formation avec l'objectif de passer le permis de conduire. On sait que, en plus, en Valais, on a une situation géographique assez spécifique entre plaine et montagne qui implique des déplacements nombreux avec des horaires limités dans les transports qui impliquent aussi une grande perte de temps. Et puis, une des raisons qui est liée directement à ce cours permis de conduire, c'est la volonté pour nous d'introduire le numérique dans nos cours. On n'aimerait pas que les personnes qui sont en situation d'illettrisme d'aujourd'hui deviennent des personnes en situation d'illettrisme électronique de demain.
Les cours seront donnés dans un premier temps en présentiel avant de continuer en distanciel. Ceci pour jauger les facultés informatiques de chacun des participants afin de leur assurer un suivi personnalisé. Le premier cours aura lieu le 6 octobre. Les citoyens suisses auront du pain sur la planche en 2022. Ils auront le dernier mot dans les urnes sur le dossier controversé de la publicité pour les produits du tabac qui touchent les jeunes. C'est aussi la population qui décidera à qui la Suisse pourra exporter du matériel de guerre, même si l'initiative populaire a été retirée. On ne sait pas encore si l'initiative en faveur du don d'organes sera maintenue ou retirée au profit d'une modification de la loi sur la transplantation. Mais on fait le point sur toutes ces initiatives avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Le Parlement fédéral a débattu des trois initiatives que vous évoquez. Il demande au peuple de les rejeter, mais sur les trois dossiers, il a adopté un contre-projet indirect. Cela signifie qu'il a modifié une loi pour intégrer tout ou partie des exigences des initiatives. Question ouverte aujourd'hui, les initiants s'en satisfont-ils ? Les réponses sont diverses. L'initiative dite correctrice, qui retire au Conseil fédéral le droit de décider seul à qui la Suisse peut vendre du matériel de guerre, est retirée, car la loi prévoit que cette compétence revient au Parlement, avec possibilité de lancer un référendum et donc au besoin de consulter la population. C'est tout le contraire pour l'initiative Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac. Elle sera soumise au peuple en 2022 parce que le compromis voté à 88 contre 77 au Conseil national et 28-13 aux États, qui restreint certes les possibilités de faire de la publicité, est jugé insuffisant. Le directeur d'Addiction Suisse, Grégoire Vito.
Vous avez lâché le mot de compromis. Si on veut lutter contre le tabagisme, les compromis, c'est un peu difficile de les faire avec l'industrie. Et donc c'est une loi de compromis avec l'industrie dont le Parlement a accouché et donc qui préserve largement ses intérêts, c'est-à-dire qu'elle laisse d'énormes possibilités de promotion du tabac et des produits contenant de la nicotine de façon plus large. Bah, le problème, c'est que si ce produit est interdit de vente aux mineurs, comment est-ce qu'on explique qu'on puisse encore faire de la publicité qui les atteint et qui s'adresse à eux ? C'est là que ça joue pas.
Troisième initiative avec son contre-projet indirect, celle de la Jeune Chambre internationale Riviera qui veut changer le paradigme du don d'organes pour que tout un chacun soit un donneur potentiel. Il faudra s'y être opposé de son vivant pour ne plus l'être. C'est le modèle dit du consentement présumé au sens strict. Le Parlement a adopté une modification de la loi sur la transplantation qui reprend le principe mais au sens large. Cela signifie que si la personne décédée n'a pas donné son avis de son vivant, ce sont les proches qui décideront. Suffisant pour les initiants, le comité d'initiative n'a pas encore arrêté sa position. Ce sera fait dans le courant de la semaine. Les avis sont partagés.
Voilà, c'était un dossier préparé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Le Parti libéral radical a un nouveau président.
Et oui, samedi, l'avocat argovien de 46 ans, Thierry Burkhardt, seul candidat, a été élu avec 296 voix sur 303. Il succède à la Suissoise Petra Gössi, qui s'en va après 5 ans et demi, passé à la tête du PLR suisse. Au micro de Serge Jubin, Thierry Burkhardt explique ce qui le motive à assumer la présidence du PLR.
Je suis motivé de battre des idées et des valeurs du PLR, de travailler pour ce parti national parce que ce parti a une obligation pour tout le pays. Ça veut dire que je vais battre pour le Suisse.
Vous avez dit OK pour devenir président à condition d'avoir une équipe avec vous. Est-ce que c'est décisif pour vous que vous ayez vous-même choisi votre équipe ? On a l'impression que c'est comme un conseil d'administration.
Oui, je comprends le team comme dans un comité. Et moi, je suis le primus inter pares. Ça veut dire dire que je vais décider ensemble avec le team et je voudrais que l'assemblée de délégués sait qui sont les membres de mon team. Mes collègues sont très motivants pour moi. Je voudrais faire un team qui est harmonieux, où on peut travailler bien ensemble et je suis sûr que nous sommes un très bien team.
Quel type de président est-ce que vous serez? Il y a plusieurs ailes dans votre parti, libéral, radical. Vous saurez les réunir?
Oui, bien sûr. Le premier but est de rassembler le PLR parce que ça c'était un peu difficile dans les années passées parce qu'on est un parti national avec une histoire régionale. Les partis sont différents dans la Suisse romande, dans la Suisse alémanique ou au Tessin. Mais ça c'est le deuxième but. On doit avoir une position claire pour le politique libéral radical. Chaque personne dans notre parti sait que maintenant c'est important battre ensemble pour gagner les élections 2023.
Vous êtes conscient que soit c'est le déclin qui se poursuit, soit on retrouve une pente qui va vers le haut?
Nous voulons augmenter 2023 parce que nous sommes sûrs, c'est important pour notre pays avoir une voix forte libérale.
Est-ce que vous craignez qu'en 2023, un des deux sièges, PLR, soit remis en question au Conseil fédéral?
Moi je suis sûr que nous allons avoir deux conseillers fédéraux aussi après 2023, parce que l'alternative est un conseil fédéral plus à gauche. Ça veut dire que qui veut que le conseil fédéral reste à la droite va voter pour PLR.
Dans votre équipe, on dira élargie, deux personnes se sont désistées ces derniers jours, ces dernières semaines, Madame Noguero, Monsieur Muller, qui était prévu comme chef de campagne en 2023. Est-ce que c'est un problème pour vous, ou bien est-ce que vous préférez aussi avoir des gens qui vous correspondent davantage?
Les départs de Fanny Noguero et Damien Muller ne sont pas liés. Les conseillers aux États Damien Muller souhaitent étoffer son parcours professionnel avec une nouvelle expérience, et je le respecte, bien sûr. Et Fanny Noguero, elle n'a pas caché que son poste était un lien étroit avec la présidente. Sa décision est donc liée au départ de Petra Gössi et non à pas mon arrivée. On a déjà une idée pour le poste de Damien Muller. Et bien sûr, c'est un peu plus difficile pour trouver une secrétaire ou un secrétaire général, mais on va trouver une solution dans certains temps.
Parlons du virage climatique qu'a pris le PLR avant les élections de 2019. Vous allez le poursuivre, vous allez l'interrompre, le modifier?
Non, pas du tout. Le but, c'est clair. On doit travailler pour l'accord climat du Paris. On doit trouver une solution pour une nouvelle loi de CO2 sur une base libérale, parce que sans ça, une nouvelle loi de CO2 ne peut pas gagner la majorité du peuple.
Est-ce qu'on va vous voir en Suisse romande?
Bien sûr. Je me réjouis de venir à la Suisse romande. La Suisse romande est très très belle et moi j'aime beaucoup les peuples.
Et Thierry Burkhardt a aussi profité de l'occasion pour présenter ses vice-présidents. Ils seront quatre à l'épauler. La conseillère aux États fribourgeoises, Johanna Gapani, le conseiller national valaisan, Philippe Lantermo, le jeune Zurichois, André Silberschmidt, et l'Appenzellois, Andrea Caroni.
Près de 90 entreprises suisses seraient impliquées dans les Pandora Papers.
Un vaste système de sociétés offshore, environ 29 000, mis en place à des fins d'évasion fiscale qui implique des cabinets d'avocats, des notaires et des sociétés de conseil. La création de ces entités écrans a permis à des responsables politiques et à des personnalités publiques de placer discrètement leur fortune. Parmi ces personnalités impliquées, justement, on retrouve notamment la chanteuse colombienne Shakira, l'ancien mannequin allemand Claudia Schiffer, mais aussi l'ex-premier ministre britannique Tony Blair et l'ancien ministre français Dominique Strauss-Kahn. L'enquête a été menée par environ 600 journalistes du Consortium international des journalistes d'investigation qui se sont appuyés sur près de 12 millions de documents. Puis à l'étranger, les deux Corées rétablissent leurs canaux de communication transfrontalière. Le ministre sud-coréen de l'unification l'a annoncé dans un communiqué hier, affirmant que les mesures posaient les bases d'une reprise des relations entre les deux pays. C'est la Corée du Nord qui avait coupé les lignes en août dernier. La Corée du Sud espère désormais renouer le dialogue assez rapidement. Puis étranglé par les sanctions économiques, l'Iran réclame 10 milliards de dollars d'avoir gelé aux États-Unis. Téhéran souhaite ainsi mesurer les réelles intentions américaines dans les négociations sur le nucléaire iranien au point mort depuis juin. Si Washington refuse le deal, l'Iran refusera de négocier. Rappelons que près de 8 milliards d'avoirs iraniens sont bloqués dans deux banques coréennes. Gel qui pourrait mener la banque centrale iranienne à poursuivre Séoul en justice. Puis le caricaturiste suédois Lars Vilks est mort. L'auteur des caricatures de Mahomet a été victime d'un accident de la route hier en Suède. Accident qui a aussi coûté la vie aux deux policiers chargés de le protéger. La police suédoise a d'ores et déjà écarté l'hypothèse d'un acte malveillant. Puis on reste en Suède, mais cette fois-ci avec le prix Nobel de médecine 2021 qui a été attribué lundi à l'américain David Julius et à l'autre américain d'origine libano-arménienne Ardem Patapoutian pour leur découverte sur la façon dont le système nerveux ressent les températures et le toucher. Selon le jury Nobel, leurs découvertes révolutionnaires ont permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde. En tennis, Belinda Bencic est de retour dans le top 10 mondial après s'être hissée jusqu'au quart de finale du tournoi de Chicago la semaine dernière. La Saint-Galloise a grimpé aujourd'hui au 10e rang du classement WTA, un classement toujours emmené par l'Australienne Ashleigh Barty. Chez les hommes, Henri Laaksonen fait à nouveau partie des 100 meilleurs joueurs de la planète. Vainqueur du tournoi Challenger d'Orléans hier, le Chafouzois atteint désormais à la 98e place du classement ATP.
En football, les formations romandes de Super League ont vécu un week-end noir.
Lausanne, Sion et Servette ont tous connu la défaite lors de la 9e journée de championnat. Mais si les Vaudois, lanterne rouge du classement, ont conclu leur premier tour sur un revers 2-0 à Lugano, les Genevois et les Valaisans ont eu droit à une fessée. Une semaine après avoir été battus 3-1 par Grasshopper au stade de Letzigrund, les Sédunois ne sont pas parvenus à faire mieux hier contre le FC Zurich. Au contraire, les protégés de Marco Walker ont été balayés 6-2 après avoir totalement perdu le fil de la rencontre dans les 20 dernières minutes. Dans ces conditions, l'entraîneur du FC Sion semble être sur un siège éjectable. Va-t-il survivre à la trêve internationale? La réponse du président du club valaisan, Christian Constantin.
Ce que je peux vous dire, c'est vous dites à la minute, est-ce que tu gardes ou tu changes? Et ni oui ni non pour les deux variantes, parce qu'à la minute, j'en sais rien. Maintenant, la situation est mauvaise et elle devient de plus en plus mauvaise parce que finalement, tout le monde est averti que ce match, le dernier du tour, qui avait toute son importance pour essayer de renverser ce qui était un peu moins bien fait ces dernières semaines, mais visiblement, on n'arrive pas à renverser. Voilà.
Et si aucune décision n'a été prise pour le moment par la direction du FC Sion, le poste de Marco Walker ne tient plus qu'à un fil. L'entraîneur Seuleroy revient sur cette situation.
La pression, à la fin, il est toujours là. Bah, pour le moment, après, moi, je vais être dans le bus, je rentre au Valais, après, ça arrive, qu'est-ce qui va arriver? Ça fait part du mon job d'être entraîneur, avec, peut-être de vivre avec cette pression. Maintenant, c'est sûr que le dernier du match, les résultats, ils ne souhaitaient pas bien.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. Pour le FC Sion, le prochain match de Super League est prévu le dimanche 17 octobre à domicile contre le FC Bâle. De son côté, le Lausanne Sport accueillera Grasshopper au stade de la Tuyère.
Au niveau amateur, le Vevey Sport a imposé sa loi au FC Montais samedi en Première Ligue.
Vainqueur de leurs deux premiers duels, disputés à domicile cette saison, les Veveysans ont poursuivi sur leur lancée ce week-end. Ils se sont adjugés le derby face aux Montaisans sur la plus petite des marques. Grâce à une réussite tombée dès la 8e minute de jeu, les joueurs de la Riviera l'ont emporté 1-0. Mais si ce succès est bon à prendre dans les rangs vaudois, il révèle aussi certaines lacunes. Sur le plan offensif, les Veveysans auraient déjà pu tuer le match en première mi-temps, mais le réalisme fait défaut depuis le début de la saison. Les précisions de l'entraîneur du Vevey Sport, Christophe Cachilli.
C'est notre base de travail depuis quelques semaines, même si ça ne se voit pas encore ce soir. Il y a du mieux dans les animations, mais encore une fois, ça manque de précision et aussi de confiance par moment. Donc à nous de leur apporter cette confiance. Et chaque match, on l'a pu le voir ce soir, hein, chaque match est difficile. Merin était à Martigny. Si Martigny n'est pas 10, on ne sait pas ce qui se passe. Alors tous les matchs sont très costauds, très solides, parce que le groupe est homogène. Donc à nous de progresser dans les secteurs de jeu qui le nécessitent.
Et le néo-promu Montaisan n'a quant à lui pas à rougir de sa prestation. La possession du ballon a penché du côté chablaisien et les Rouges et Noirs se sont procuré quelques occasions, surtout en deuxième mi-temps, pour égaliser. Au terme de ce derby, l'entraîneur du FC Montais, Cédric Stram, a donc voulu retenir les aspects positifs.
On a déjà le retour de notre capitaine qui a pu faire 80 minutes depuis plusieurs mois qui n'avait pas joué, donc c'est déjà une grande satisfaction. On n'a pas de blessés aujourd'hui et on continue à récupérer des joueurs et ça va être très intéressant pour la suite.
Et maintenant, la suite, que faire pour justement granger ces victoires, faire augmenter ce compteur de succès?
Il faut être plus solide dans nos 16 mètres et puis plus, plus tu erres dans les 16 mètres adverses. C'est là où ça s'est joué aujourd'hui, hein, une erreur d'inattention sur un centre, et puis à la fin, nous, on n'a pas réussi à faire la différence.
C'était des propos recueillis par Julien Traxel. Au classement, le Veuvez Sport est 8e après 7 journées dans ce championnat de Première Ligue. Les Vaudois accusent 4 points de retard sur la 2e place. De son côté, le FC Montais pointe en 10e position. Et puis encore un mot de natation. Maria Ugolkova tient la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde. La Zurichoise a remporté hier le 200 mètres 4 nages dans le petit bassin de Berlin. Elle en a aussi profité pour établir un nouveau record de Suisse pour 100 mètres sur le 100 mètres papillon. L'ancienne sociétaire du Lausanne Natation a signé un temps de 57 secondes pile en finale. De quoi abaisser sa précédente marque de référence de 3 centièmes.
12h24, ça ira mieux que le micro. C'était le journal de la mi-journée présenté par Quentin Frère.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Jumpland, Escapeland et Laserland, centre de loisirs à Aigle, jumpland.ch.
Je le disais tout à l'heure, gris souris, un dégradé de gris dans le ciel du canton, tout simplement, un peu partout d'ailleurs, en Suisse, avec peut-être, si on a de la chance, quelques éclaircies. Toujours est-il qu'en début d'après-midi, le risque de pluie est encore présent. Pour ce qui est des températures, on nous annonce au maximum 16 degrés sur le plateau, 11 degrés à 1000 mètres et 6 degrés à 2000 mètres. La météo complète, vous la retrouvez sur le site radiochablais.ch ainsi que sur l'application, et ce, à 6 jours. Sur ce, la suite en musique, Clara Luciani, et à vous tous une très très belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye.